Vous le savez que à la fin de cette année 2025, nous ouvrirons dans toutes les cathédrales du monde, à la demande du pape François, l'année du jubilé universel. Nous sommes en plein jubilé des apparitions ici, et le 29 décembre, partout dans le monde, sera ouverte une grande année pour replonger au cœur de notre baptême. Le pape a beaucoup voulu que cette année sainte 2025 soit centrée sur le mystère du Christ, en mémoire aussi du grand concile christologique, et a approfondi ce mystère du Verbe éternel de Dieu fait chair, Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et l'axe que le pape a fixé pour ce jubilé universel, c'est pèlerin d'espérance. Et tout à l'heure, à l'aude, pour ceux qui étaient à l'aude, dans la lecture biblique, il y avait cette expression désignant Israël, un peuple en route vers le repos promis par Dieu. Au fond, un peuple en quête du vrai Shabbat, de ce qu'est vraiment la vie dans le repos de Dieu. Il nous faut demander, comme dit le pape dans sa lettre pour introduire l'année jubilaire, demander de voir, dit-il, les signes des temps. Vous savez que l'expression a été utilisée dans le Concile Vatican II. L'Église est attentive à discerner les signes des temps, des signes d'espérance. Mais pour que les signes des temps deviennent des signes d'espérance, ça doit passer par des personnes en chair et en os, par nous-mêmes et par toutes les autres personnes. Aussi, je voudrais commencer cet entretien avec vous ce matin par vous demander et me demander avec vous d'essayer de voir concrètement les signes d'espérance. Il y a tellement de signes de désespérance. Alors, les signes d'espérance, j'en prends quelques-uns qui me touchent particulièrement, mais chacun de vous, chacune de vous pourrait venir ici et les dire. Bon. Le premier qui m'est apparu, c'est cette fidélité des moines, des moniales, des religieux, religieuses, plusieurs fois par jour, de se retrouver comme nous venons de faire ce matin pour chanter la louange de Dieu et intercéder pour le monde. Le bonheur tout à l'heure de chanter les laudes, mais ce n'est pas tous les jours que nous les chantons ensemble. Les religieux, les religieuses, les moines, les moniales, inlassablement, quel que soit leur travail, se retrouvent plusieurs fois par jour, gratuitement, sans télévision, sans enregistrement, sans témoin souvent, pour chanter la louange de Dieu. Marguerite Marie fait partie de cette grande foule des consacrés vivant en communauté qui a consacré beaucoup de temps de sa vie gratuitement, comme font nos sœurs de la Visitation à côté, pour célébrer la liturgie des heures. Deuxième signe des temps, je pense à des mères de famille partout sur la terre qui, au milieu des difficultés, parfois des difficultés affectives, soignent leurs petits-enfants ou leurs petits-enfants, leurs bébés ou leurs jeunes garçons ou leurs jeunes filles qu'ils portent. Comme c'est beau! Ces mères qui inlassablement croient dans la vie, elles ne font pas des théories, mais elles résistent à tout. Elles sont prêtes à tout pour leur enfant. Un autre signe des temps. Un troisième, eh bien, c'est l'application des petits à dessiner, à jouer, même sous les bombes, même si les parents se disputent, leur capacité de temps en temps à être occupés par une seule chose, attentionnés à ce qu'ils sont en train de faire. Signe des temps, signe d'espérance. Ensuite, la force de famille dans les pays en guerre qui continue de pouvoir parler, de se relever, de continuer à protéger leur famille, quitte à partir, mais qui ne s'effondre pas complètement. Si les maisons s'effondrent, les familles tiennent debout partout sur la terre. Signe d'espérance. Encore, l'amabilité de tant et tant de personnes qui humblement font leur travail derrière un guichet, dans un magasin, en faisant le ménage, dans une entreprise, inlassablement, qui gardent le sourire, qui sont disponibles, qui font simplement leur métier et qui ne pensent pas une seconde être des saints et des saintes et qui le sont peut-être plus que nous ne le pensons. Ils sourient au jour qui commence. Et même s'il y a de temps en temps auprès d'eux des gens qui ne remarquent même pas leur travail, ils ne s'en formalisent pas. Voilà les humbles. Autre signe d'espérance, l'abnégation de tant et tant de bénévoles sans lesquels aucune institution, aucune association, aucune entreprise ne pourrait perdurer. Autre signe d'espérance, la foi et la paix dont témoignent tant de croyants. Je pense déjà au pape lui-même, au milieu des charges presque indicibles qu'il porte. Il garde la joie, il garde la paix, il garde la foi. Signe d'espérance. Il n'y a pas que le pape. Autre signe d'espérance, signe des temps. La foi de ceux et de celles qui se reconnaissent humblement pécheurs et qui ne condamnent pas les autres. Vous connaissez cette très belle prière orientale qu'on dit souvent pendant le carême en Orient. Seigneur, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas condamner mon frère. Tant et tant d'humbles cachés qui vivent cela, signe d'espérance, signe des temps. Peggy disait que l'espérance, c'était quelque chose d'étonnant. Moi, je pense aussi qu'aujourd'hui, la foi chrétienne, c'est étonnant. La confiance, franchement, cela m'étonne toujours et me réjouit. La confiance, tant nous risquons de nous replier sur nos sécurités de tous ordres, méfiant par rapport à tout ce qui nous est étranger ou inconnu. La confiance, c'est étonnant. Parmi les signes que Dieu nous donne en abondance, il y a les saints et les saintes. Enveloppés d'une multitude de témoins, dit la lettre aux Hébreux, nous courons jusqu'au bout l'épreuve qui nous est offerte. Ils ne sont pas pour nous des exemples inimitables. Un peu comme on pourrait admirer un sportif d'élite mondiale, admirable, mais bien entendu absolument inaccessible pour le commun des mortels, en tout cas pour moi, et je pense pour vous. Voilà. Non, ce n'est pas comme ça les saints et les saintes. Ce ne sont pas des héros. Ce ne sont pas des gens qui vivent des exploits, on les applaudit comme ça, on dit c'est formidable, c'est beau, mais enfin, moi je ne suis pas de cette race-là, quoi. Non. Les frères et les sœurs aînés qui nous précèdent sont des encourageurs, des compagnons de vie, plus proches de nous d'ailleurs que la plupart d'entre nous, parce qu'ils sont entrés dans la pleine lumière de la charité, donc ils sont proches. Ils sont des intercesseurs et j'ose dire aussi des guides. Quand l'Église nous donne en exemple les saints et les saintes, elle nous donne de pouvoir nous appuyer sur eux en toute simplicité. nous pouvons nous glisser sur leurs traces, nous unir à leur voix, nous couler dans leurs prières et dans leur immense confiance en Dieu. Bref, en nous appuyant sur eux, en nous approchant de leur humanité, tout imbibé de la grâce jusqu'au moelle, nous trouvons le véritable goût de vivre. Nous trouvons le véritable goût d'aimer. Voilà la vie chrétienne, mais la vie tout simplement, à laquelle aspirent tous nos contemporains. Nous ne sommes pas d'une autre race qu'eux. Approcher quelqu'un de vivant et donc de singulier, c'est d'abord retirer nos chaussures, retirer nos lunettes. C'est nous interdire d'appliquer des grilles d'analyse. C'est accueillir l'étrangeté de la différence. C'est accueillir l'étrangeté de ce qui surprend, de ce qui est étonnant. Bref, il y faut de l'humilité pour garder confiance. Il y faut de l'humilité pour garder conscience que notre connaissance est toujours limitée. Cela est particulièrement vrai quand il s'agit de la connaissance d'une femme ayant vécu dans le monde du XVIIe siècle, qui n'est plus le nôtre, Marguerite Marie. Ce qu'on appelle la vocation religieuse de Marguerite Marie, va attendre des années pour pouvoir s'exprimer, être traduite simplement. Marguerite Marie ne pourra parler de sa vocation qu'à l'âge de 20 ans, ce qui à l'époque est déjà âgé. C'était déjà des vocations dites tardives, alors qu'elle y pensait dans son cœur déjà petit enfant. Il faudra encore 4 autres années pour qu'elle discerne le lieu de vie où elle pourra se donner entièrement à l'appel du Christ. Cela nous apprend déjà ceci. Les choses qui concernent l'engagement durable de notre vie, les maturations, sont indispensables pour la réalisation d'une vocation. Les maturations, les cheminements, la durée, le temps. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui s'emballe sur un coup de tête. Il n'est pas cet instable qui court après la première idée venue. Et puis demain, ce sera une autre idée. Ah non. Marguerite Marie nous dit, je ne veux être religieuse que pour une seule chose, l'amour de Dieu. Marguerite Marie connaît à certains moments cette confirmation intérieure, comme lorsqu'elle franchit la porte du monastère de la Visitation ici à Paris, où elle a mûrement choisi d'aller pour y entrer jusqu'à la mort. C'est ici que je te veux, entend-elle dans son cœur. Ces confirmations de la grâce, nous pouvons nous-mêmes les vérifier, les éprouver. Et alors, peu à peu, nous apprenons, grâce à cet appel, grâce à ces confirmations, à refuser plus radicalement qu'avant toute espèce de chemin qui serait double. Encore plus, évidemment, un chemin qui serait contraire à l'amour de Dieu. Et alors, nous apprenons à mieux écouter nos frères, nous-mêmes, et bien sûr, la voix du Seigneur. Nous recevons des indications certaines de la part de Dieu, parfois personnellement dans la prière ou pas dans la prière d'ailleurs, et aussi par les autres, qui sont là aussi pour nous confirmer sur le chemin que nous prenons. Le Seigneur nous fait voir ce qui est le bon chemin. Il nous donne l'assurance dont nous avons besoin au jour d'épreuve. Je te suivrai, Seigneur, oui, dit le psaume, mais montre-moi le chemin. te suivrai, Seigneur, mais montre-moi le chemin. Dans les heures les plus sombres, je pense à nos amis ici, à quelques amis, montre-moi le chemin, toujours la petite lumière de chaque jour nous est donnée. Ah, ce ne sont pas les grands transports forcément mystiques, ce ne sont pas forcément les grands élans, mais toujours la lumière est donnée. Elle s'appelle la paix et l'amour. Quand Dieu vient chercher quelqu'un pour l'introduire dans les réalités si douces de son alliance, il ne supprime rien de l'humanité concrète. Je dis bien, il ne supprime rien de notre humanité concrète. Il ne change pas notre chair, notre personne marquée par son éducation, par les liens familiaux, aussi par les grâces et aussi par les péchés. Il ne supprime rien de notre chair. Voilà. Je le répète, parce qu'il ne nous change pas en chair angélique ou idéale ou en idée. Non. C'est dans le tissu humain que le Christ connaît mieux que personne, puisqu'il a pris en tout notre humanité. C'est dans ce tissu humain que Dieu peu à peu peint, crée la beauté des saints et des saintes, la beauté de Marguerite Marie, dans sa chair humaine concrète. La nature de Marguerite Marie n'est pas du genre ratanguère. Bon, ce n'est pas le style. Elle n'est pas née pour être un général en chef. Ce n'est pas le style. Il y en a qui ont ça dans la peau, très bien, mais ce n'est pas son style. Elle a une nature plutôt très fine et même très délicate. Vous le savez, elle voit le jour à l'époque où Saint François de Sales, avec Jeanne de Chantal, est canonisé. Avec Jeanne de Chantal, excusez-moi, où Saint François de Sales est canonisé. Elle appartient à une famille de notables qui connaît vite, après la mort du Père, une période de dures épreuves. Qu'on se souvienne, c'est l'éloignement de sa marraine, c'est la maladie qui cloue Marguerite Marie, Marguerite, puisqu'elle ne s'appelle pas encore Marguerite Marie, qui cloue Marguerite au lit pendant près de 4 années, à l'âge où tout un chacun aspire à se déployer librement, elle a 10 ans. C'est ensuite la maladie de sa propre mère, maladie qui était jugée inguérissable et qui oblige l'adolescente à devenir l'infirmière de sa propre mère, à laver les pieds corporels répugnants pendant plusieurs années. C'est aussi marqué dans la chair de Marguerite l'incapacité des siens, même celle de son curé, à comprendre l'authenticité de sa vocation, au moins pendant un temps. C'est ensuite l'incompréhension quand elle-même choisit d'aller dans un monastère où sa famille ne connaît personne. Dans cette lente et progressive éclosion d'une liberté adulte, cette lente et progressive confiance plus grande pour se déterminer sans contrainte, Marguerite Marie découvre ce fil rouge de sa vie, ce fil rouge qui s'épanouit dans l'amour, amour de Dieu et du prochain, toujours inséparable. Même la souffrance, et il y a eu de la souffrance dans sa vie, permet d'apprendre la patience, permet aussi de découvrir mieux l'amour qui pousse à une nouvelle générosité, pas simplement à partir des forces humaines, mais à partir de cette bouleversante alliance avec le Christ. Générosité joyeuse de tous les instants, car l'amour est vainqueur aussi en nous de certaines peurs. Une visitandine de Paray-le-Monial m'a dit il y a quelques années que Marguerite Marie aurait mérité d'être appelée la patronne des adolescents. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a été affrontée à la mésentente d'adultes qui aurait pu être son soutien, tant d'adolescents qui auraient pu s'appuyer sur une situation, disons, plus ajustée et qui n'a pas été le milieu, en tout cas pas toujours, dans lequel Marguerite Marie a vécu son adolescence. On a même pu parler un petit peu d'une situation de travail dans la propriété où la responsable, qui était une tante, si je ne me trompe pas, a eu un management qui aujourd'hui ferait problème. Voilà. Un management très très autoritaire, pour ne pas dire un peu tyrannique. Elle a vécu dans cette ambiance-là aussi, sa jeunesse. Bon. Elle a traversé, comme de nombreux jeunes, aujourd'hui, également des crises d'anorexie, des isolements douloureux, une introspection parfois démesurée et scrupuleuse. Elle a appris à ne pas s'appuyer seulement sur ses propres forces et sur les autres. Elle a appris à s'appuyer vraiment sur la force que Dieu communique, la seule force qui donne souffle à l'âme, qui fait traverser les épreuves, qui pousse à aimer et à espérer, même quand tout semble aller à l'envers. Il n'y a pas besoin de faire un dessin pour dire qu'aujourd'hui, bien des choses semblent aller à l'envers. Sainte Marguerite Marie était donc une femme normale, humaine avec ses faiblesses, qu'elle a su accepter, qu'elle a su intégrer dans sa vie, autant dans son dialogue avec le Seigneur que dans ses relations quotidiennes avec ses sœurs de communauté et avec ceux et celles qu'elle côtoyait. Sa fine sensibilité féminine. Oh mon Dieu, aujourd'hui on n'ose même plus dire ça. Sa sensibilité, comme si les hommes étaient incapables de sensibilité. Sa sensibilité féminine, j'ose le dire, avec un peu de malice, lui fait trouver des expressions de tendresse et d'authentique amour envers celui qui lui a tant montré le sien. Le Christ qui m'a aimé, disait déjà Paul, et qui s'est livré pour moi. En vérité, le Christ n'a pas seulement montré la profondeur de son cœur blessé, il a voulu unir le cœur de Marguerite Marie au sien. Nous l'avons chanté d'ailleurs dans l'hymne écrit par le père Guédas. Il a plongé le cœur de Marguerite Marie dans son cœur d'amour universel. Une prière liturgique l'exprime ainsi. C'est dans la messe pour demander l'amour. Seigneur, que nos pensées deviennent tes pensées, se changent ou deviennent les tiennes, Seigneur, et nous aurons pour nos frères et pour toi un unique amour. Comme c'est beau ça, ouais. Et ce n'est une grâce à demander. Venons-en à la vie de prière de Marguerite Marie. La prière, vous savez, c'est le sang qui irrigue la profondeur de notre vie. On pourrait parler longuement sur aujourd'hui la grande mission de l'Église, qui est de demeurer dans cette prière quotidienne cachée. Et ici, je tiens à saluer aussi cette tradition ancienne. Alors, on dit plus l'heure de présence, je ne sais plus comment on dit d'ailleurs. Enfin, comment on dit ? On disait avant une formule très désuète. Vous voyez ce que je veux dire ? La garde d'honneur, voilà, pardon, je ne me souvenais plus de cette expression. Derrière la garde d'honneur, il y a cette prière au fil des jours. En priant chaque jour un temps, bon, c'est une façon de vouloir que toute notre vie soit passée en présence, dans la présence de Dieu. Même si, évidemment, consciemment, nous n'y pensons pas tous les jours, tous les instants, à l'heure de présence. Eh bien, ici, mais partout dans l'Église, ce qui fera le rayonnement, ce qui fera le cœur de la mission, c'est le secret de l'amour qui se puise dans la prière. Marguerite Marie est là aussi pour nous le rappeler. Sa vie de prière, c'est le souffle de sa liberté. Prier vraiment, c'est un acte de prophétisme au cœur d'un monde tenté par l'autoréférencement, qui dit qu'il n'a pas le temps pour s'occuper d'autre chose que de lui-même. Voilà le monde. Prier, c'est être des éclaireurs d'un monde qui ne sait plus où il va. Prier, c'est être amoureux. Amoureux du monde que Dieu a tant aimé. j'ose le dire. Sans la prière, la terre va se dessécher, non seulement la terre intérieure, nous le savons par expérience, mais la terre aussi matérielle va se dessécher. La prière, c'est aimer ce qu'on espère. C'est déjà, d'une certaine manière, goûter aux réalités qui seront les vraies réalités à venir. Marguerite Marie a voulu se laisser former à la prière, simplement, même si pendant des années, c'est le Saint-Esprit directement qui l'a formée à la prière, puisqu'elle n'a pas eu vraiment d'accompagnateur sérieux avant d'entrer à la Visitation, où Saint François de Sales est venu évidemment le guide premier de sa vie intérieure. Mais elle a aussi appris de sa responsable que nous pouvions tenir dans la prière, particulièrement l'adoration de l'Eucharistie, un peu comme une toile qui attend le coup de génie du peintre. On doit se rappeler que cette vie de prière fut intense et prolongée dès sa tendre enfance. N'ayant pas connu d'accompagnement spirituel avant d'entrer à l'école de Saint-François de Sales, elle a avancé vraiment seule sur le chemin de la prière. Elle pourra attester plus tard de quelle manière Dieu lui-même la faisait entrer dans la contemplation des mystères de son Fils. Citation. « Il se présentait à moi dans le mystère où il voulait que je le considérasse. Il rendait attentif si fort mon esprit, en tenant mon âme et toutes mes puissances englouties dans lui-même, que je ne sentais pas de distraction, mais mon cœur se sentait consumé du désir de l'aimer. C'est bien le propre d'un esprit libre que d'aller toujours de l'avant, sans regarder en arrière, sur des chemins qu'il faut défricher car ils ne sont pas tracés d'avance. Marguerite Marie a cet esprit de confiance entière en Dieu. Confiance appuyée ensuite sur les avis d'un accompagnateur, je pense évidemment ici, mais pas seulement à lui, au Père Claude la Colombière, ou l'accompagnement d'une supérieure. Loin de brider la générosité et l'élan de notre cœur, le dialogue sincère avec un frère ou une sœur aînée qualifiée dans l'accompagnement spirituel fait éviter bien des pièges, et particulièrement les pièges de l'illusion. Cet accompagnement aide à briser les enfermements dans le scrupule ou dans certaines peurs. Il s'agit de regarder sa propre misère dans la miséricorde de Dieu et jamais sans la miséricorde. Miséricorde tellement manifeste dans le mystère du cœur ouvert de Jésus. Marguerite a dit cela aussi à une novice un jour. Nous pouvons nous interroger à certaines heures. Mais où se trouve mon cœur véritable ? Où se trouve mon centre vital? Quel est le moteur de mes pensées et de mes actes? Quelle est la motivation profonde de ce que je vis et de ce que je respire? Qui dissipera mes troubles? Qui libérera la joie et l'humilité du Christ dans mes relations avec les autres? Le feu qui consume le cœur de Sainte Marguerite Marie nous atteint nous-mêmes aujourd'hui. Marguerite Marie a son propre centre en un autre. Le poète Zindel, je crois, qui disait « Je est un autre ». Elle nous presse d'aimer, de nous laisser toucher par le cœur de Jésus vivant, c'est-à-dire le cœur de Dieu dans un cœur entièrement humain. Comme est beau le simple exemple de vie de cette sœur aînée, écoutant amoureuse de Dieu et de son projet bienveillant, accueillante de la participation que Dieu permet qu'elle ait au mystère de la croix. Marguerite Marie nous apprend à quitter des zones de confort et aussi à quitter définitivement des zones intérieures qui sentent l'odeur du ressentiment. Comme elle est attractive, cette confiance active de Marguerite Marie, confiance réceptive et engagée, qu'elle ressource si admirablement dans la contemplation et l'adoration du cœur blessé et ouvert du Christ par amour pour la multitude. Plus nous avançons dans la vie, et plus nous souffrons de ne pas aimer assez. Et moins nous aimons, explique Marguerite Marie, plus nous regardons les autres avec dureté, sans miséricorde, soupçonnant même chez eux des pensées, des actes qu'ils n'ont peut-être jamais eus ni commis. Tenez, c'est un exercice à faire aussi spirituel. Par rapport à ceux ou à celles avec qui, spontanément, ce n'est pas la sympathie absolue, quoi, voilà, pour telle et telle raison, quelquefois d'ailleurs très grossie. Est-ce que nous y pensons, y compris même quand il y a eu des dommages, quand il y a eu des fautes contre nous, est-ce que nous y pensons, les enfermant dans ce que nous pensons qu'ils ont commis, peut-être d'ailleurs ils l'ont fait, ou est-ce que nous les regardons comme ceux qui ont peut-être déjà changé intérieurement et qui peut-être, même s'ils n'ont pas changé intérieurement, changeront un jour. Ça change bien les choses. Hein. Entre parenthèses, ça dégage de bien de problèmes dans la vie intérieure, ça. Je dis ça spontanément en écoutant Marguerite Marie le dire aussi. Quand nous manquons d'amour, de miséricorde, nous regardons les autres avec dureté. Ça, c'est clair. Hein. Voilà. Mendions donc l'amour. Le silence intérieur, patiemment recherché et entretenu, font partie de cet exemple si lumineux de Marguerite Marie. Dans une époque si bruyante, si dispersante, le bombardement numérique incessant des news de tous ordres, les messages, les mails, rendent d'autant plus pressante et salutaire l'invitation que Jésus, l'invitation de Jésus à ceux qui s'approchent de lui. Entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille la porte, c'est-à-dire ne laisse rentrer que ceux que tu veux bien laisser rentrer. Ici, il faut penser évidemment à ce grand discernement, mais pas simplement le discernement, la volonté de verrouiller la porte pour être retiré dans le secret. Dans la chambre intérieure, où ton Père, dit Jésus, comme c'est beau, ton Père, voit dans le secret pour te donner la vie, pour te récompenser, jamais pour te coincer. Ah non, un Dieu qui coince, c'est un Dieu pervers, c'est un Dieu, c'est le contraire de notre Dieu. Voilà. Tant de théologiens modernes nous ont aidés à faire attention aussi, à être délivrés de certaines relents d'images qui sont des images perverses de Dieu, comme si Dieu nous attendait au tournant. Oui. C'est fou de penser ça. Est-ce qu'un père, même un bon père, une mère, ferait ça pour son enfant? Jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas, qu'il ne cherche pas à l'éduquer, bien sûr, mais toujours en espérance, jamais pour le coincer. Silence intérieur dans un univers bombardé continuellement par des messages de tous ordres, souvent irréfléchis. Verrouille la porte. Ne laisse pas entrer n'importe quelle pensée ou sentiment dans ton cœur. Prie ton Père qui est là dans le secret. Le beau silence est donné à ceux dont les actes veulent plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, qui sont comme un écrin recueillant ce que Dieu veut dire et donner. Tenez donc toujours votre intérieur en silence, dit Marguerite Marie, parlant peu aux créatures et beaucoup à Dieu, par vos œuvres, en souffrant, en agissant pour son amour. Fin de citation. Non, pardon, il y a une citation qui continue. Tenez tous vos sens intérieurs et extérieurs dans le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Silence intérieur par le retranchement de toutes ces pensées inutiles, toutes ces réflexions d'amour-propre, pour vous disposer à entendre la voix de l'époux. Silence extérieur sur tout ce qui peut vous louer ou blâmer ou accuser les autres. Ce silence sera pour honorer celui que Jésus solitaire au Saint-Sacrement, celui de Jésus solitaire au Saint-Sacrement, vous apprendrez, dit-elle, par ce moyen, à l'aimer en silence et à converser avec son sacré cœur. Le pape récemment a reçu à Rome, au mois de septembre, les participants d'un chapitre général de deux congrégations religieuses rattachées au Sacré-Cœur. Il leur a dit ceci: parlez peu, parlez peu, écoutez beaucoup, gardez le lien du cœur. C'est une trilogie intéressante, pas simplement pour des religieux et religieuses du Sacré-Cœur. Il n'a pas dit « taisez-vous », il n'a pas dit « soyez en silence tout le temps ». Parlez peu, à propos. Écoutez beaucoup, comme si nous n'avions jamais fini d'apprendre à écouter. Et gardez le lien du cœur. Quand nous parlons de la sainteté, c'est toujours d'une sainteté par participation. Participation à l'unique sainteté de Dieu. Je crois utile de lever ici une ambiguïté possible. Parfois, nous confondons sainteté et vertu. Évidemment que les saints et les saintes canonisées ont grandi en vertu. Mais nous confondons, nous pensons une vie vertueuse égale une vie sainte. Non. La vie vertueuse est habituellement, bien sûr, signe de sainteté, mais pas obligatoirement. Il existe des vies de sainteté qui compose avec des difficultés qui ne seront jamais surmontées sur cette terre. Je tiens cette réflexion d'un grand théologien qui est décédé il y a quelques années, le cardinal Robert Coffi, dans une très très belle méditation sur la sainteté de Marie, faite à des moniales, les moniales de Dourgne, près d'Ancalca. Quel est le contraire du péché? Ce n'est pas la vertu. La vertu, c'est le contraire du vice. Le péché, c'est pas pareil. Le contraire du péché, c'est la reconnaissance du péché. C'est l'accueil du pardon jusqu'au fond. C'est-à-dire la reconnaissance que Dieu seul est saint et que Dieu seul peut nous justifier. Voilà le contraire du péché. Et là est la sainteté qui est un don de Dieu. Les saints et les saintes sont bel et bien de notre patte humaine, la même patte humaine que la nôtre. Leur vie peut nous paraître étrange à certains moments. Nous pouvons nous sentir loin d'eux et de leurs expériences. C'est que leur vie, tout comme la nôtre, est appelée à se laisser convertir par un amour rédempteur, amour que nous pouvons ou non accueillir. Voilà où peut se trouver la raison de cette étrange distance entre les saints et nous, parfois. En effet, il existe une tristesse, celle de ne pas être des saints. Ajoutons que le secret de la transformation de notre cœur, c'est-à-dire notre sanctification, nous échappe. Voilà. Nous ne sommes pas les maîtres de notre sanctification. Le secret de cette transformation bienheureuse que les saints et les saintes ont accueillie pleinement appartient à Dieu. Seule la foi nous fait connaître et aimer Dieu et nos frères d'un même amour. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître l'amour dont Dieu nous aime. Sainte Marguerite Marie a eu la conscience vive de son néant. Elle n'a pas seulement contemplé hors d'elle le mystère du cœur ouvert du Christ, elle y a été unie par grâce, elle ne s'est pas dérobée. Mieux, elle s'est livrée elle-même à cette union transformante. Dans l'Évangile, nous trouvons une parole lumineuse du Seigneur pour nous entraîner à sa suite, tellement importante pour ne pas nous perdre dans l'illusion. Mettez-vous, dit-il, à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Nous réentendrons tout à l'heure dans l'Eucharistie ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Cette parole a tellement marqué saint François de Sales, fondateur de la Visitation avec Jeanne de Chantal, qu'il a pu écrire un moment à Jeanne de Chantal ceci. L'esprit de la Visitation est un esprit d'une profonde humilité envers Dieu et d'une grande douceur envers le prochain. Et il ajoutait que ce qu'on ne connaît pas assez bien avant, évidemment, la venue au monde de Marguerite Marie, il ajoutait ceci, les sœurs recevront-elles ce privilège et cette grâce incomparable de porter le nom de fille du cœur de Jésus. Voilà ce qu'écrivait donc le fondateur de la Visitation, Jeanne de Chantal. Évidemment avant les apparitions de Père Moniale, puisque je le rappelle, François de Sales était mort bien plus tôt. Plus tard, Marguerite Marie se nourrira avec bonheur de l'enseignement si profondément évangélique du docteur de l'amour, comme l'appelle Benoît XVI, c'est-à-dire de saint François de Sales. Puisque trop souvent, hélas, l'évocation du Sacré-Cœur envoie des images doloristes, citons encore François de Sales, citation. Le mérite de la croix ne consiste pas dans sa pesanteur, mais dans la façon de la porter. Il ne s'agit pas de mesurer le poids de la croix, mais la façon de la porter. La façon de la porter, c'est de laisser le Christ nous dire « Prends mon joug à moi plutôt que le tien » ou « Prends le tien avec le mien » et tu verras que les choses deviennent faciles. Ah oui, facile. Dans une homélie, le pape Jean-Paul II, si marqué lui-même par la violence inimaginable du mystère d'iniquité, il a été marqué par la digue, cette frontière infranchissable qui s'appelle la miséricorde, et c'est cette digue qui interdit que le déferlement du mal engloutisse l'humanité entière. Sainte Marguerite Marie, dit-il, a connu ce mystère admirable, ce mystère bouleversant de l'amour de Dieu. Tout au long de sa vie cachée dans le Christ, elle a été marquée par le don de ce cœur qui s'offre sans limite à tous les cœurs humains. Elle était saisie tout entière par ce mystère divin. Toute sa vie, elle a brûlé de la flamme vive de cet amour que le Christ est venu allumer dans l'histoire de l'homme. Fin de citation. Cette réflexion de saint Jean-Paul II attire notre attention sur le caractère universel de cette révélation de l'amour divin. Si l'Église a d'ailleurs instaurer cette fête, c'est aussi pour rappeler que ce rayonnement, il faut le redire toujours, est universel. Il n'est pas réservé à quelques-uns. C'est un don de tout l'être du Christ, un don sans limite offert à tous les cœurs humains. Le cœur humain aspire à connaître le pur amour et à être transformé. Je finis par là. Nous sommes marqués aujourd'hui par l'étalage du meilleur et du pire, disons-le comme cela, grâce à cet outil ou ces outils merveilleux et toujours délicats à manier que sont les moyens de communication modernes. Donc, le risque est de tout mettre au même niveau et du coup d'être noyé ou ballotté comme une coquille vide sur une mer déchaînée. Ce n'est pas cela, être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas non plus nous isoler en disant « je coupe toutes les relations avec les moyens de communication modernes ». Être chrétien, ce n'est pas évidemment nous immerger dedans. Mais c'est quoi? Ce serait, avec la fidélité de la prière et de l'humilité, faire, à l'exemple de Marguerite Marie, de notre existence concrète, marquée par des tas de petites choses qui sont au fond banales, qu'il faut faire, être marqué par une brûlure d'amour qui fait que, en cachette, nous ne faisons plus rien en voulant être à côté du Christ, mais avec lui. Voilà aussi le projet de Dieu. Son projet, c'est de nous inviter à entrer dans son alliance. Et quand le peuple y a été infidèle, de le rétablir dans cette alliance. Et ultimement, c'est dans son Fils bien-aimé Jésus que cette alliance est entièrement restaurée. Je finis par cette rapide réflexion qui demanderait d'être approfondie. On a pu dire ceci, qu'il ne faut jamais schématiser, que depuis l'instauration de la fête du Sacré-Cœur, la contemplation de la passion du Christ a été marquée davantage par le côté transpercé du Christ en croix, ce qui est vrai, au risque parfois de ne pas assez méditer l'ensemble de l'obéissance filiale de Jésus dans toute sa vie, obéissance filiale qui conduit aussi à l'agonie à Gethsémani, où là se joue aussi le mystère du don du sang. Et en fait, la grande tradition de l'Église n'a jamais séparé, évidemment, les événements de la vie du Sauveur. Mais voilà, nous gagnerions toujours à joindre à la contemplation du cœur ouvert sur la croix la contemplation de tous les actes et toutes les paroles du Seigneur qui sont toujours cet apprentissage pour nous dans notre liberté humaine de ne pas nous mettre d'abord au centre, mais de tout faire en fonction de celui qui nous a aimés. Ce qui change tout. Bref, c'est d'apprendre l'humilité. Non pas que Jésus ait eu à apprendre l'humilité, mais il a fallu que dans notre condition humaine, il apprenne aussi l'obéissance, c'est l'être aux Hébreux qui le dit, non pas du tout d'une manière passive, mais en totale liberté. Non pas ce que je veux, voilà. Non pas ce que moi je veux. C'est très mystérieux de penser que le Sauveur a pu dire une parole comme cela. Ça nous apprend aussi à discerner que cette volonté de Dieu sur nous, elle est toujours de l'ordre d'une alliance avec Dieu, bien sûr, mais avec nos frères. Je ne découvrirai jamais ma vocation sans les autres. Et je suis aussi chargé, il n'y a pas que les évêques qui peuvent le dire, d'encourager la sainteté, l'irrigation du sang du Christ. Ça ne veut pas dire de décider à la place des autres, jamais. Mais en même temps, d'être dans un climat où nous nous regardons avec une confiance renouvelée. Or, franchement, le monde n'est pas tout à fait comme cela dans le sens où il veut toujours se prémunir. Et du coup, il est tourné vers le passé, beaucoup trop. Nous ne sommes pas tournés vers le passé. Nous apprenons du passé ce qui a valeur d'éternité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et nous savons que Dieu ne cesse d'ouvrir la route. Nous sommes ce peuple d'Israël à qui Dieu ouvre la route. Ah oui, c'est dans le désert. Ah oui, parfois, c'est aussi à travers des épreuves, des grandes purifications et parfois même des morsures, etc. Mais c'est lui qui ouvre la route. Nous demandons à Sainte Marguerite Marie deux choses. De ne plus jamais nous précipiter quand il y a des décisions importantes à prendre, mais de les mûrir, comme elle a fait. Deuxièmement, de ne jamais nous considérer comme seuls capables de discerner ce qu'est la volonté de Dieu pour nous, mais aussi d'accepter de parler avec un frère ou une sœur qualifié, je dis bien, dans un accompagnement. Et troisièmement, évidemment, de grandir en discrétion. Il y en a fallu pour qu'elle parle du message, comme vous le savez, mais tout le reste de sa vie est caché. Voilà. Et c'est ça qui fait sa sainteté. C'est cette vie ordinaire, toute ordinaire, qu'elle a librement choisie à la visitation et qui a été entièrement imbibée de la charité du Christ. Nous pouvons chanter peut-être « Où sont amour et charité ?» Où sont amour et charité ?